Chapitre 3. Quand il se réveilla, le monde avait changé. Le général Outros, chef de la grande armée de Kourgan, avait atteint son objectif, la cité d'Ildakar. Comme toujours, ses troupes seraient impossibles à arrêter. Des centaines de milliers d'hommes enrôlés dans tout l'Empire allaient assiéger la ville de légende, la plus précieuse prise de guerre imaginable dans ces terres du Sud. Outros avait l'intention de briser la cité comme une noix afin de festoyer avec ce qu'elle contenait. Ce jour glorieux, alors que ses hommes continuaient à investir la plaine, Outros s'était campé face au mur d'enceinte de la ville. Très concentré, il avait enregistré tous les détails, les hautes tours, la structure en terrasse, les bâtiments serrés les uns contre les autres, aux toits émaillés brillants comme les écailles d'un dragon. Un joyau que le général entendait conquérir pour son maître. Ses hommes brûlaient d'enthousiasme, mais il comptait les contrôler, histoire qu'ils ne rasent pas tout. Car au-delà du trophée, il tenait à sa réputation de sage. Une victoire relativement pacifique serait aussi bénéfique pour lui que pour les habitants d'Ildakar. Mais une fois que les loups auraient investi la bergerie, juguler leur ardeur ne serait pas un jeu d'enfant. Cette conquête ne serait pas sans complications. Logique puisqu'il s'agissait d'Ildakar. Face à sa cible, les bras nus dans l'air piquant de la fin d'après-midi, Outros avait senti les premiers assauts de l'hiver. Sans se laisser distraire, il avait sondé la muraille en quête de la plus infime faiblesse. Sous son crâne, un conseil de guerre se déroulait en continu. Même s'il avait des consultants, en particulier les deux sublimes magiciennes jumelles Ava et Ruva, il prenait toujours ses décisions seul, et en chemin il avait ourdi plusieurs plans pour mettre à genoux Ildakar. Sur les créneaux, des sorciers en tuniques colorées étaient soudain apparus. Les voyant gesticuler, Outros avait compris qu'ils lançaient un sort. Partout dans l'ancien monde, on vantait la puissance de ces hommes, mais le général ne les craignait pas. Pourtant, il avait senti son corps se raidir et peser plus lourd, comme si sa chair et ses organes étaient en pierre. Paralysant aussi son esprit, une force terrifiante l'avait enveloppé, se solidifiant autour de lui comme de la boue qui sèche au soleil. Les sons devenus de plus en plus étouffés, il avait capté de très loin les cris de terreur que poussaient ses soldats, eux aussi victimes du phénomène. Devant son pavillon de commandement, Ava et Ruva avaient le teint crayeux de certaines statues. Alors que sa vision se brouillait, Outros s'était endormi, avec pour ultime image la muraille d'enceinte d'Ildakar, l'imprenable. À partir de là, il n'avait plus eu conscience du passage du temps. Depuis son réveil, Outros fixait la même ville. Mais les détails étaient différents. Dans une nuit d'encre, les lumières d'Ildakar brillaient comme des phares. À l'est, cependant, l'horizon pâlissait déjà. Avant même d'esquisser un mouvement, Outros entreprit de chercher une explication à ce qui lui était arrivé. Connu pour ne pas prendre plus de risques que nécessaire, il ne fonçait jamais tête baissée. Chef de l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée de l'ancien monde, il avait déjà conquis les trois quarts du continent au nom de Crocs de Fer. Mais l'atout principal de ses troupes, c'était la vivacité d'esprit de leur chef. Bien confus en pleine nuit, l'air était plus doux qu'en fin d'après-midi quand il s'était endormi. Un temps de début d'automne, pas de milieu d'hiver. Donc, près d'une année s'était écoulée. Comment était-ce possible? Dans la plaine, si l'herbe était déjà jaunie et sèche, elle restait abondante, et ça n'aurait pas dû être le cas. En s'installant, ces hommes avaient tout piétiné. Avançant d'un pas, Outros eut l'impression d'être un vieillard, tant ses jambes se révélèrent raides. Même chose pour ses bras, son cou, et même les muscles de son visage. Le corps d'athlète dont il était si fier ressemblait à une roue de chariot en manque de graisse, une vieillerie grinçante. Outros baissa les yeux sur ses bras nus et fut surpris par la patine de ses bracelets de force ornés de la flamme stylisée de Kourgan. Dans le même ordre d'idées, le teint blafard de sa peau le déconcerta. Enfonçant un index dans son biceps droit, il le trouva anormalement dur, comme si on y avait introduit de la glaise presque sèche. D'ailleurs, s'il sentait la pression de son doigt, la sensibilité de sa peau semblait absente, comme si elle n'envoyait plus d'informations à son cerveau. Essayant de plier le bras, il eut l'impression que son coude était en bois. Quand il se tâta le visage, il y trouva sa bonne vieille barbe et sentit sous ses doigts le menton pointu que sa pilosité n'était jamais parvenue à cacher totalement. Puis il suivit le tracé de la cicatrice qui lui barrait la joue gauche, un stigmate qui ne le faisait plus souffrir depuis longtemps. Dans un lointain passé, un dragon d'argent s'était échappé, détruisant une partie du camp et aspergeant le général de feu et d'acide. Désormais, la cicatrice, plus lisse que jamais, était parfaitement insensible. Autour de lui, Outreau s'entendit des exclamations, puis des questions, et enfin des cris de surprise. Décidant de balayer du regard son immense camp, il découvrit qu'il s'était volatilisé. Il ne restait plus que les soldats, par centaines de milliers, et à l'évidence aussi stupéfiés que lui. À part les sentinelles éparpillées sur tout le périmètre, les autres hommes étaient regroupés par compagnie, comme il convenait. Mais où étaient passés les milliers de tentes, les chariots, les chevaux, les lignes de piquet et les feux de camp? De tout ça, il ne restait rien. Et son pavillon, qu'était-il devenu? Où s'étaient envolés les étendards et les bannières à la gloire de Croc de Fer? Qu'était-il advenu des réserves de vivres, des tentes des armuriers, des établis des rémouleurs et du camp des fabricants de flèches? Rien. Il n'en subsistait rien. À part cette marée d'hommes désorientés en cuirasse ou en armure qui s'éveillaient autour de leur chef. Là où auraient dû se dresser les chorales, quelques chevaux erraient mornement.
« Par le gardien et tous les esprits !»
marmonna Outros.
« Que nous est-il arrivé ?»
Sur la plaine, les soldats frappés de stupeur grouillaient comme un nuage de moucherons. Mais le général ne se laissa pas déconcentrer. Au prix d'un effort louable, il parvint à s'abstraire du bourdonnement incessant de cette multitude. Parmi ces hommes, aucun ne pouvait en savoir plus long que lui sur la situation, mais il devait enquêter. Quand il se mit en marche, son corps réagit comme s'il n'était pas complètement fait de chair et de sang. Toujours vêtu de son gilet de cuir renforcé de plaques de fer, Outros arborait le casque orné des cornes d'un taureau monstrueux que les défenseurs d'Ildakar avaient lancé sur ses hommes. Ce jour-là, la bête avait semé une sacrée panique. Toujours prêt à mettre la main à la patte, Outros s'était chargé de l'abattre. Du coup, il s'était approprié les cornes. Se tournant de nouveau vers ses deux jolies magiciennes, il constata qu'elles étaient aussi perdues que lui. Élancées mais dotées de courbes des plus agréables, les jumelles portaient une robe bleue moulante, parfaite pour mettre en valeur leur généreuse poitrine. Rien ne les distinguait l'une de l'autre, sauf pour Outros, qui les connaissait aussi bien que ses propres mains, qui l'avaient passé sur tout leur corps, pas en quête de plaisir sexuel, mais de force. Aujourd'hui, il avait besoin de cette force. Toutes deux blafardes, Ava et Rouva tenaient à n'arborer aucune pilosité. Du coup, elles se rasaient réciproquement les cheveux, s'épilaient les sourcils et étendaient même la toison qui aurait dû s'épanouir entre leurs cuisses. En temps normal, elles se peignaient sur le corps des motifs colorés conçus pour les aider à mieux focaliser leurs dons. À la lueur naissante de l'aube, elles se tournèrent vers Outros, les yeux écarquillés de perplexité. Sans un mot, il les rejoignit et l'enveloppèrent de leur corps, l'emplissant d'une force nouvelle. Conscient de la confusion ambiante, Outros lâcha enfin.
« Nous devons savoir ce qui est arrivé. Il faut que je rassure mes hommes. »
« Pour ça, prépare-toi à mentir, » dit Rouva, « parce que nous ignorons tout pour l'instant. »«
C'est faux, »
intervint Ava.
« Nous savons au moins qu'un puissant sortilège est en jeu et qu'il a été lancé par les sorciers d'Ildakar. »
Rouva caressa le visage du général, suivant la ligne du menton, puis insistant sur sa joue barrée d'une cicatrice. Un attouchement amoureux? Non. Un examen scientifique qu'elle répéta d'ailleurs sur sa sœur.
« De la pierre! Nous avons été pétrifiés !»«
Et là, » dit Rouva, « nous redevenons normaux. »«
Presque, » modéra Ava. La chair et le sang sont revenus, mais il reste une raideur anormale.
Les yeux plissés, Outros étudia la ville fortifiée à la lueur de plus en plus affirmée de l'aube. Son esprit ayant recouvré une bonne partie de sa vivacité, il remarqua des changements derrière les hautes murailles. Plusieurs bâtiments avaient brûlé, très récemment puisque de la fumée en montait encore.
Les sorciers nous ont pétrifiés, je veux bien. Mais comment ont-ils pu infliger ce sort à une immense armée? Pour ça, il faut une puissance qui dépasse mon imagination. De plus, regardez bien la ville. Elle a changé comme si... Ces incendies seraient la conséquence d'une guerre civile?
Et si nous nous étions réveillés à cause de ça?
Avança Rouva.
Oui,
renchérit sa sœur. Le sorcier qui a jeté le sort est peut-être mort, nous libérant de sa magie. Dans leur stupeur, les hommes des premiers rangs, vaguement en formation, avançaient à présent vers le mur d'enceinte d'Ildakar. Une attaque sans espoir, histoire de faire quelque chose.
Ils sont furieux,
dit Rouva.
Parfait, souffla Outros. Ça les occupera un moment.
Entraînés à la perfection, ces soldats auraient pu charger en dormant. Les regards enfoncés, leur général ne se fit pas d'illusions sur l'issue de cet assaut. Cela dit, les rappeler aurait été une grossière erreur. Même s'il détestait les opérations improvisées, celle-ci lui offrirait un répit bienvenu, le temps d'en apprendre plus. Si son armée était restée immobile des mois durant, voire des années, il devait prendre tout son temps pour décider que faire. Déjà, il échafaudait des hypothèses. Mais toutes se heurtaient à un obstacle. Pourquoi les tentes, les vivres et les feux de camp avaient-ils disparu? Dans son esprit, il revoyait encore les chariots, les stocks d'armes et toute l'intendance indispensable à une telle troupe en campagne. Durant ce qui était pour lui la semaine précédente, mais qui pouvait dater de plusieurs années, la pluie était tombée 3 jours d'affilée, avec en apothéose quelques chutes de neige précoces. Sans les feux de camp, le bourbier aurait dû geler. Grâce à eux, il était resté liquide et gluant à souhait. Dans l'air surchargé de fumée, les soldats avaient dû déboiser en partie les collines pour alimenter tous ces foyers. Bizarrement, il ne restait pas de traces de ces coupes claires. Autour du camp, la nature avait repris ses droits. Presque une année entière? Non, beaucoup plus que ça. Mais comment était-ce possible?
Général Outros!
Lança une voix familière. Celle du premier commandant, le bras droit du général, un vétéran couvert de cicatrices nommé Enoch. Servant aux côtés d'Outros depuis le début, Enoch était son aîné de 10 ans. Héros de guerre bien avant son chef, il lui témoignait pourtant une fidélité sans bornes. Féru de stratégie et de tactique, il comprenait sans peine les plans complexes d'Outros. Certain de n'avoir rien à prouver, il avait depuis longtemps laissé son ambition au vestiaire. La gloriole personnelle, il s'en fichait, car servir Outros lui suffisait amplement. Outros, pas Kourgan, qui ne lui inspirait aucune vénération. Blafard, le second d'Outros, bougeait toujours difficilement.
« Général, que s'est-il passé? Quelque chose a changé et pas pour le mieux. »
Outros se redressa de toute sa hauteur.
« Pour l'instant, tu en sais aussi long que moi, premier commandant. Les sorciers d'Ildakar nous ont jeté un sort. »
Soucieux, Enoch plissa le front.
« Tant que nous n'aurons pas une bonne explication, les rumeurs iront bon train et ça ruinera la discipline. »
Même dans des conditions optimales, commander autant d'hommes était un casse-tête. Bien placé pour le savoir, Outros ne contredit pas son second.
« Tu crains que les hommes aient peur au point d'abandonner le siège? Nous risquons une débandade ?»
Indigné à cette seule idée, Enoch eut un rictus dégoûté.
« Bien sûr que non, général. Eux désertés. Ces hommes t'appartiennent corps et âme. Mais de toi, ils attendront des explications et elles ne devront pas trop tarder. »
À cause de ses lèvres à demi minérales, le sourire d'Outros eut quelque chose d'une grimace.
« Envoie des messagers dire aux hommes d'attendre que je leur parle. Puisqu'il reste quelques chevaux, des estafettes devront sillonner le camp et informer toutes les compagnies que le général Outros, toujours à leur tête, les guidera jusqu'à la victoire. L'ennemi paiera pour ce qu'il nous a fait. » « Tous nos gars savent déjà ça, général Outros. Fais-le leur dire quand même. Moi, il faut que j'enquête. Exécution, Enoch. Mais avant, prête-moi l'oreille. »
Il est visible que nous avons tout perdu, donc nous devrons agir très vite. Ne montre pas ton inquiétude et n'hésite pas à mentir aux hommes s'il le faut, mais nous n'avons plus de camp, plus de bois de chauffage et pas l'ombre d'un abri. S'il pleut, il nous faudra des tentes. Envoie des hommes couper des arbres et cueillir ou chasser tout ce qui peut se manger. S'il le faut, qu'ils n'hésitent pas à tuer pour ça.
Pour l'eau, les rivières qui couraient dans la vallée seraient une source d'approvisionnement suffisante, mais les soldats avaient bien d'autres besoins. Jetant un coup d'œil derrière lui, Outreau se désola de nouveau de l'absence de son pavillon.
« J'ai besoin qu'on me bâtisse un poste de commandement, sur le champ. S'il n'y a plus de toile pour fabriquer une tente, une structure en bois suffira. »
Un long moment, Outros déclama ses ordres sur un ton sans réplique.
« Organise aussi des groupes d'éclaireurs, une centaine de 20 hommes chacun, qu'ils explorent les environs en quête de villes et de villages où réquisitionner les vivres et les équipements qui nous manquent. C'est noté, général. »
Une fois Outros seul, Ava et Rouva l'entourèrent, silencieuses et pensives. Même s'ils rôdaient autour du trio, les soldats n'osèrent pas approcher. Bien qu'il n'y eût rien d'un chef cruel et injuste, à l'inverse de Kourgan, le général leur inspirait une crainte respectueuse. Avec un mari comme croc de fer, comment s'étonner que la douce Magelle ait eu besoin de consolation? Ainsi, sans le vouloir vraiment, le général et l'impératrice avaient trahi Kourgan. Outros se languissait de sa belle. Un an et demi qu'il ne l'avait pas vue. Depuis son départ, Dorogang, la capitale impériale, il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée. Des mois interminables sans toucher la peau de Magelle, caresser ses cheveux ou baiser ses délicieuses lèvres. Outros repoussa ses idées enivrantes dans un coin de sa tête. Très souvent, en s'endormant, il les laissait envahir sa conscience et savourait de formidables souvenirs. Pour l'heure, il ne pouvait s'offrir ce luxe. Même si ses soldats n'en avaient pas encore conscience, il y avait urgence. Le temps leur était compté. Bientôt, quand leur ventre crierait famine, même les troufions les plus obtus comprendraient que quelque chose clochait.